Bonsoir à tous. Il est 13h ici à Washington, 18h à Abidjan, dans Macro et en temps universel. Clairement, Gibor avec vous en direct. Bienvenue dans notre bulletin d'information. Tout juste installé à la Maison Blanche, le nouveau président américain Joe Biden consacre aujourd'hui la première journée pleine de son mandat à sa priorité la plus urgente, la lutte contre la pandémie de coronavirus, qui a déjà fait 400 000 morts aux États-Unis. Joe Biden doit signer cet après-midi 10 décrets et autres directives pour accélérer les campagnes de vaccination et de dépistage. Joe Biden espère également convaincre les élus républicains du Congrès d'adopter un plan de relance de 1 900 milliards de dollars. L'ampleur des défis économiques auxquels fait face Joe Biden a été mise en exergue par l'annonce aujourd'hui d'une nouvelle vague d'inscriptions au chômage. Du 10 au 7 janvier, ce sont 900 000 personnes qui se sont inscrites sur les listes selon les données publiées aujourd'hui par le département du travail. Ce niveau historiquement haut pendant une si longue période sera un casse-tête pour le nouveau président Joe Biden qui hérite ainsi de l'un des marchés du travail les plus sinistrés dans l'histoire du pays. Retour à l'actualité africaine, la deuxième vague de l'épidémie de Covid-19 se révèle plus meurtrière en Afrique, selon Africa CDC, le centre de contrôle et de prévention des maladies. En Afrique, le taux de mortalité s'établit désormais à 2,5% des cas recensés, au-dessus de la moyenne mondiale qui est à 2,2%. Le nombre de cas sur le continent a augmenté de 14% par semaine lors du mois dernier. En Afrique du Sud, Jackson Mkengu, ministre conseiller présidentiel et visage public de la lutte de l'Afrique du Sud contre le virus, est décédé du Covid-19. Au Kenya, deux cas du variant sud-africain du Covid-19 ont été identifiés. C'est ce qu'ont annoncé les autorités sanitaires du pays, les deux premiers recensés dans ce pays d'Afrique de l'Est. Les autorités de la Sierra Leone ont annoncé boucler la capitale Freetown et rétablir un couvre-feu nocturne dans tout le pays pour contrer l'augmentation exponentielle, selon leurs termes, des cas de Covid. Enfin, en Côte d'Ivoire, les premières livraisons du vaccin Pfizer-BioNTech, initialement prévues fin janvier, sont reportées à la mi-février en raison des retards, mais les autorités ivoiriennes ont maintenu le calendrier de vaccination. La Cour d'appel de Paris a confirmé aujourd'hui le renvoi aux assises de l'ex-préfet Rwandais Laurent Boussibarota, accusé d'être impliqué dans le génocide des Tutsis commis en 1994 au Rwanda. Monsieur Boussibarota va se pourvoir en cassation, a indiqué son avocat. La chambre de l'instruction de la Cour d'appel a confirmé la mise en accusation de l'ex-préfet qui est réfugié en France depuis 1997 pour génocide, complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. L'émissaire de l'ONU en Centrafrique, Mankeu Ndiaye, a réclamé aujourd'hui au Conseil de sécurité une augmentation substantielle du nombre de casques bleus avec une plus grande mobilité, dit-il, dans un pays très vaste. Le représentant de l'ONU a également évoqué une grande désertion des forces de sécurité centrafricaines depuis décembre qui nécessite des réformes selon lui. La MINUSCA compte déjà quelques 12 000 militaires et représente l'une des plus grosses et coûteuses opérations de l'ONU dans le monde. En Libye, 10 corps ont été découverts dans une fosse commune de la ville de Tarouna, dans l'est-ouest du pays, où de nombreuses dépouilles ont été retrouvées ces derniers mois, selon le GNA. Enfin, le chef de la diplomatie britannique, Dominique Raye, en visite au Soudan, a annoncé une aide de 55 millions de dollars pour ce pays en crise, ainsi que 455 millions de dollars pour